Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir la moitié du Quatuor Von Quick en présence, à savoir Sylvain Favrebul, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes second violon de ce quatuor. Et Anthony Condo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc violoncelliste de ce quatuor. Alors, second violon, est-ce que ça a toujours été comme ça, organisé, premier violon, deuxième violon
Chez nous, ça n'a jamais changé. C'est une histoire de tempérament. Je pense que vraiment, j'ai pas du tout l'âme d'un premier violon et j'aime être au cœur de l'harmonie. Et c'est du coup mon plaisir passe des fois par les voix des autres et ça me va bien.
C'est intéressant, oui, justement, ce rôle de deuxième violon qui est un pilier du quatuor. Enfin, vous me direz qu'en matière de quatuor, tout le monde est quand même un pilier.
Oui, c'est ça, c'est une grande démocratie où tout le monde est à la fois leader et suiveur. Mais c'est vrai que c'est pas du tout un rôle en retrait, en tout cas la vision que j'en ai. C'est
Bah, c'est la vision qu'on en a aussi.
voilà.
Effectivement, c'est un rôle.
Et du coup, c'est vrai que moi, c'est une place où je me régale et je suis très, très heureux de laisser les galipettes aiguës à mon collègue Nicolas.
Très bien, alors vous fêtez les 10 ans de ce quatuor. Vous, Anthony Condo, ça fait 2 ans que vous êtes au sein de ce quatuor. Ça fait quoi quand on entre au sein d'une formation déjà préexistante? Vous aviez fait du quatuor avant dans d'autres formations, mais vous arrivez au sein d'une formation qui a déjà construit durant 8 ans un répertoire. Et comment ça se passe?
Bon,
Visiblement, ça se
on
passe
ouvre
bien.
grand ses oreilles, on est à l'écoute, on apprend à se connaître.
Mais c'est un répertoire que vous connaissiez pour partie, au moins?
Alors ça, c'est sûr que ça, c'était une des grandes choses qui a rendu la rencontre aussi facile. C'est vrai qu'au niveau du répertoire, il y avait beaucoup de choses que je connaissais, donc on n'a pas été bloqué par une avalanche de programmes qu'il aurait fallu
Que vous
que j'en
travailliez.
gère. Du coup, on a pu directement rentrer dans du travail d'interprétation. En ayant des réflexes, le langage du quatuor, même si on a plein d'identités, est assez universel.
Moi, je vous ai connu par un concert que vous aviez donné au Louvre. Alors, Anthony, vous n'étiez pas encore au sein du Quatuor, et qui était le reflet de votre premier disque, je crois, consacré à des quatuors de Mozart.
Mozart.
C'est quand même très risqué de commencer par Mozart. On a l'impression que quatuor de Haydn, quatuor de Mozart.
Alors c'est rigolo parce qu'on nous a effectivement beaucoup dit ça à l'époque. Nous, c'était pas du tout
Excusez-moi de
notre.
reprendre un
Bien sûr.
cliché de l'époque.
Pas du tout, mais c'est vrai que les quatuors de Mozart, contrairement aux opéras, font pas du tout partie du répertoire considéré comme le plus abordable pour l'auditeur comme pour
Enfin,
le
c'est surtout pour
musicien.
le quatuor, on a l'impression que c'est d'une difficulté monstrueuse.
Alors c'est pas une musique évidente et plus c'est une des rares musiques qui sent le labeur chez Mozart parce qu'il a spécialement ceux qu'on a enregistrés qui sont les dédués dédiés à Haydn. Il a eu beaucoup de difficultés à les amener à maturité. Il a raturé, ce qui est vraiment quelque chose d'inédit chez lui. Et il avait vraiment cette pression de l'historique de Joseph Haydn. Je crois que c'est l'opus 33 qui l'a inspiré. Mais en tout cas, pour nous, c'était pas du tout on s'est pas posé de questions. On sortait quelque part des études parce qu'un jeune quatuor prend beaucoup de cours avec différents grands musiciens, grands groupes, comme ça a été notre cas. Et pour nous, le répertoire d'Haydn, Mozart, Beethoven faisait forcément partie de notre initiation. Et voilà, pour nous, donc Haydn est la première marche quand on débute un quatuor, et Mozart est peut-être la deuxième. Et donc on avait envie, nous, c'était la période dans laquelle on était, de défendre cette musique mozartienne, et sans regret, parce qu'on a
Bah,
continué, on a finalement
ni
trois.
pour vous, ni pour nous.
Voilà, bah merci, on a trois CD Mozart dans notre catalogue, et on est ravis de les avoir.
Oui, puisque vous avez également enregistré des quintettes avec l'altiste Adrien
Lamarca.
Lamarca. Alors, quand on parle de génie prodige, d'enfant prodige, on pense à Mozart, on pense moins à Mendelssohn, et pourtant, Dieu sait s'ils étaient un enfant prodige.
C'est vraiment la comparaison qu'on en fait, nous, dans notre discographie, parce que.
Puisque je vous reçois à l'occasion de la parution du premier volume de votre intégrale d'Équateur de Mendelssohn.
Exactement, et c'est vrai que c'est une musique incroyablement mature pour un adolescent, parce qu'il a commencé, je crois que le premier, il avait donc 16 ans, 18 ans, parce qu'à 16 ans, c'est l'octoire
Docteur,
avec
puis avant, il
une
avait écrit
pièce
des symphonies
magnifique.
pour cordes à 12 ans. Enfin.
Voilà, c'est ça, un opéra à 12 ans avec sa petite sœur, qui moquait d'ailleurs ses professeurs et son éducation, mais cette éducation lui a permis d'avoir vraiment cette avance sur son âge pour produire quelque chose qui est à la fois très respectueux de ce qui s'est produit avant, c'est celui qui nous a fait redécouvrir Bach, des formes un petit peu désuètes, peut-être avec les formes de fugue, le contrepoint, mais il a amené ça dans son style romantique, et du coup c'est une musique extrêmement intéressante à découvrir et à interpréter.
Oui, et puis c'est un bonheur à écouter. Alors, c'est pas vraiment un chaînon manquant dans le quatuor Mendelssohn, c'est, on dirait, vraiment un cas à part. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que bon, il y a, vous parliez de Haydn, après on pense à Beethoven, et puis après Bartok. Enfin, c'est, si je veux résumer les piliers de l'art du quatuor, Mendelssohn ou Schumann ou Schubert sont des individualités qu'on peut mettre. Voilà, plus à part, non ?
C'est vrai que parfois, il n'a pas toute la reconnaissance qu'on lui reconnaît une fois qu'on plonge vraiment dans son œuvre, dans son discours, parce qu'il y a quelque chose d'un peu volubile, d'un peu bavard parfois dans son langage. Et si on s'arrête juste à cette peut-être facette aussi de génie, on se dit il n'a pas eu, comme d'autres, beaucoup de tourments. C'est pas, on ne garde pas l'image d'un homme torturé, tourmenté. Et alors que sa musique est très profonde et, comme l'a dit Sylvain, de par son éducation, sa mère, sa grand-mère, qui étaient aussi des grandes musiciennes, qui lui ont ramené des œuvres de Bach, tout ça a fait qu'il est né avec Goethe aussi, qui était parmi les gens qui côtoyaient un grand homme cultivé. Et on voit toute sa maturité qui, pour nous, vraiment a abouti quand on arrive à son opus 80, qui est peut-être son œuvre où on sent vraiment la tragédie.
Et oui, où il venait de perdre sa sœur Fanny.
Exactement, oui.
Quelques semaines auparavant. C'est une œuvre que je vous ai entendu donner au concert. On sent que c'est une œuvre que vous aimez particulièrement. Enfin, comme tous les autres quatuors de Mendelssohn, mais il y a un attachement particulier à cet opus 80, son dernier quatuor.
Il est vraiment fou, ce dernier quatuor. Pour nous, il est extrêmement chargé en émotions et c'est un des rares quatuors de Mendelssohn où on sent une dramaturgie, on sent le drame un peu plus que d'habitude. C'est plutôt un compositeur de musique heureuse, quelque part. Mais ouais, il y a une vraie unité aussi dans la pièce. Et je trouve que ces quatre mouvements extrêmement équilibrés et que peut-être dans certains opus 44, on sent moins, des fois des longueurs de mouvements qui ne sont pas suffisamment balancées par rapport aux autres. Ici, il y a quelque chose d'extrêmement puissant où on a vraiment cette sensation de réussir à tenir un public en haleine pendant les 20-25 minutes qu'il dure et de permettre à tout le monde d'arrêter de respirer jusqu'à la fin. Et c'est un peu ce qu'on cherche finalement.
C'est une grande intensité. En tout cas, elle vient de paraître pour le label Alpha, donc le premier volume de votre intégrale des quatuors de Mendelssohn. Vous êtes mis dès le départ à les adorer, ces quatuors, ou c'est venu après la création du quatuor Van Cuyck? Ça fait partie de votre ADN du quatuor?
On avait débuté notre initiation au quatuor par l'opus 13, qui fait partie
le deuxième,
vraiment,
voilà,
qui est
le, en fait, le premier, dans premier écrit, voilà. Et le deuxième publié.
Exactement, c'est le deuxième publié.
Oui,
mais
fait comme ouais. Beethoven, le deuxième et le premier réciproquement.
Bah, exactement, surtout que ce l'opus 13 est très imprégné de Beethoven parce qu'il l'a écrit juste à la suite de la mort de Ludwig.
Vous les appelez toujours par les prénoms.
J'aime bien parce que...
J'ai l'impression d'une certaine familiarité avec ces génies du passé.
Mais c'est un petit peu comme finalement les hommes publics. On a tendance un peu à les appeler par leur nom de famille sans les précéder d'un monsieur ou d'un prénom. Et je trouve ça presque plus irrespectueux que finalement les appeler
par leur prénom. Ça prouve votre affinité avec ces génies du passé.
Bah, j'espère.
Et votre amour pour leur musique.
Mais en tout cas, voilà, c'est toujours intéressant d'imaginer qu'il y a un homme derrière cette œuvre. Ce que des fois on a tendance à oublier quand on les a mis trop sur le piédestal du panthéon de la musique.
Non, mais c'est vrai qu'en plus Mendelssohn, il y a ce côté, il y a une certaine familiarité avec son personnage, parce qu'en plus il avait ce personnage public à Leipzig, il était chef d'orchestre. Enfin, comme vous le rappeliez, il a recréé des œuvres de Bach, il a fait énormément pour les autres. Il y a tout ce côté aussi très proche de certains de ses contemporains comme Schumann. Donc on a presque une familiarité avec Félix Mendelssohn.
Bah oui, j'essaye de l'avoir avec tout le monde. Je l'ai aussi avec Anton Webern personnellement.
Mais voilà, c'est pas la même chose.
Non, c'est pas le même univers. Mais en tout cas, c'est sûr que quand on part dans un projet de disque. On est forcé de s'immerger un petit peu dans un univers, et nous c'est ce qu'on fait. On défend souvent des disques monochromes qui sont consacrés à un seul auteur, et ça nous permet vraiment de se plonger à corps perdu dans cette musique, et encore plus dans le cadre d'une intégrale, ou en tout cas d'une essentielle de la musique de Mendelssohn. On a vécu avec lui pendant 2 ans de manière très intime, et spécialement le jour de l'enregistrement où on passe 10 heures par jour à jouer cette musique avec l'intensité maximale. Voilà, on en ressort forcément familiarisé avec, avec ces gens-là.
C'est vrai que vous parlez d'intensité. Tout de suite, ça commence, ce quatuor opus 13, avec une grande intensité. Tout de suite, on sent un élan. Et alors, quand on arrive, puisqu'il y a trois quatuors opus 44 qui ont été écrits beaucoup plus tard, là, vous interprétez le premier de l'opus 44 sur ce disque. Alors là, le génie explose. Et avec c'est un premier mouvement, alors lui qui est vraiment d'une folle intensité. Je ne sais pas quel est votre sentiment quand vous jouez cette œuvre, Anthony Kondo.
C'est vrai qu'il est impossible de jouer cette musique sans mettre toute son énergie. Et pendant les longues heures d'enregistrement, on a des petites chutes d'énergie, on ne s'en rend pas toujours compte, nous. Et c'est là où on remercie Franck, notre directeur musical, ingé son, avec qui on adore bosser, et qui nous dit « Et les mecs, là, lâchez vos coups. » Et c'est vrai que c'est une musique... Il faut lâcher l'émotion, il faut lâcher le débit, le flow, pour que les énergies de chacun puissent trouver une bonne balance.
C'est intéressant, Anthony, que vous parliez de l'ingénieur du son, parce que quand on ne connaît pas ce métier, quand on est extérieur, comme je le suis, on a a priori l'impression que l'ingénieur du son, il est là pour le son, et pour, mais en fait, il a un rôle aussi artistique. C'est-à-dire que quelle est la relation qu'on a avec un ingénieur du son ?
Quand on arrive pour une session d'enregistrement, donc nous là c'est 4 jours, on était à l'Arsenal de Metz,
oui,
qui est une très belle salle, mais du coup qui est quand même une relativement grande salle. On est tous les quatre seuls dans cette salle et on a donc Franck qui est notre cinquième partenaire et qui du coup a vraiment un rôle aussi bien pour nous guider dans notre recherche que aussi pour tout ce qui est énergie... repos, tout ce qui peut arriver dans un enregistrement.
Alors, ce disque, vous le disiez, Sylvain, vous avez enregistré 3 disques consacrés à Mozart. Il y a aussi un disque de musique française avec
Schubert.
Debussy, Ravel, Schubert. Et puis, il y a ce disque avec Debussy, Ravel et Chausson aux côtés de cette merveilleuse artiste qui est Kate Lindsay. Et puis aussi de Alphonse Semain. Avec qui vous avez également, je crois, beaucoup travaillé.
Oui, bah, il se trouve que j'étais au lycée avec lui.
Ah, c'est une vieille, voilà un scoop.
Un vieux partenariat. En tout cas, une vieille histoire d'amitié, une longue histoire d'amitié avec Alphonse, et qui est pour moi un des meilleurs pianistes
chambristes. Voilà, il travaille beaucoup avec des
surtout,
chanteurs.
Surtout, oui, voilà, dans son rapport, c'est le meilleur maître de chant que je connaisse personnellement. Voilà, il a vraiment cette appétence pour le répertoire lyrique, donc c'était très naturel de l'avoir avec nous sur cette aventure.
Oui, parce qu'un de vos disques que j'adore avant cette intégrale Mendelssohn, c'est ce disque de musique française et il y a cette chanson perpétuelle qui est une œuvre absolument sublime.
C'est une
bien
toute
sûr,
petite chose dans un écran de velours très fragile, oui, mais qu'on aime vraiment beaucoup.
Petite chose par la durée, mais pas par l'intensité.
Exactement.
Alors là, on va revenir à Mendelssohn. Pour vous, est-ce que c'est une musique qui est à part ? Comment vous l'inscrivez dans la musique du 19e ? On pense bien sûr au quatuor de Beethoven, ça c'est le pilier, après qui a tétanisé visiblement tout le monde.
Exactement, et alors on est content que Félix n'ait pas été tétanisé, lui, parce que donc l'opus 13 est l'hommage à Beethoven, et du coup il a une structure qui est plus beethovenienne que ce qu'il fait par la suite. Après, il revient quelque part à quelque chose de beaucoup plus traditionnel, en tout cas avec des codes qui sont ceux qu'il aime, qu'il apprécie, et qui sont ceux du classique. On dit souvent que c'est le plus classique des romantiques. Je pense que c'est une expression vraie, mais que toute la richesse de son discours va résider finalement des fois dans les voix intermédiaires, donc celles que je peux défendre. Il y a notamment dans ces mouvements lents toujours une petite voix qui va être beaucoup plus narrative, en tout cas qui va vraiment donner un petit peu de mouvement par l'intérieur, et c'est un peu ça sa spécialité. Et comme tous les gens brillants, en tout cas les gens précoces comme Mozart, il ne fait jamais deux fois la même chose. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement pratique, c'est pas le bon terme du tout, mais c'est quelque chose d'extrêmement nourrissant pour nous, ouais, parce qu'on a toujours une deuxième vision à amener à la même chose.
Vous parlez des mouvements lents. Bon, c'est vrai que quand on pense à Mendelssohn, on pense toujours au scherzo, au mouvement vif, entraînant. Mais les trois mouvements lents qu'on peut écouter sur votre disque, ils sont tous les trois très émouvants. Enfin, c'est vraiment une musique qui, pour nous, auditeurs, nous plonge dans une émotion vraiment immédiate.
Alors, c'est vrai qu'il y a, toujours cette émotion particulière dans ces mouvements lents. Bon, là, dans ce qu'on joue, je crois que l'opus 12 est quand même un vrai mouvement lent, vraiment assumé du début à la fin, mais que ce soit dans l'opus 13 ou le 44. Bon, l'opus 13, ça commence en mouvement lent, Et puis après, on voit au milieu, il peut pas s'empêcher, il développe en fugue, et puis après, ça s'emballe avec justement les parties de second, avec cette alternance très rythmique au milieu, très mouvementée, pour revenir au calme. Et dans son opus 44, là, pour le coup, il transforme le mouvement lent en plus en une espèce de balade mélancolique où il y a toujours cette notion d'avancée, de mouvement, de regard nostalgique. C'est-à-dire, c'est pas vraiment de la tristesse, du pathos, c'est plus le regard sur quelque chose qui est passé et qui va bien à son écriture, qui est beaucoup empreinte aussi de ses prédécesseurs.
Oui, et puis il y a toujours une grande tendresse dans ces quatuors. Alors, juste une parenthèse, on va quitter un instant cette intégrale, les quatuors de Mendelssohn en cours. Les autres quatuors ont déjà été enregistrés ou ça va être fait encore pour la suite de l'intégrale
Ils ont été enregistrés cet
Donc,
été
on
et
attend.
donc
On
il y aura
attend la
des
suite.
nouvelles en début d'année prochaine,
Très bien,
février
on
sûrement.
attend avec impatience parce qu'on attend, parce que c'est la suite de cet opus 44, les 2 et 3, c'est vraiment extraordinaire. Et puis l'opus 80, bien sûr.
Oui, c'est le Mendelssohn mature, hein, c'est sûr qu'on ça. On a d'ailleurs aimé les enregistrer de manière chronologique, c'est très intéressant. On a l'impression de remarcher dans les pas d'un homme. Et voilà, donc en tout cas, l'opus 80 est un excellent final. C'est pour ça peut-être qu'on a décidé de ne pas
Oui, parce qu'il y a un autre opus 80 qui est la réunion
voilà,
de
de ne pas
Quatuor et
honorer
Pars.
l'intégrale de l'opus 81, qui pour nous a moins une dimension forte. Et puis cet opus 80 avec ce mouvement lent dédié à Fanny, qui représente quelque part un requiem pour Fanny, mais qui pourrait être aussi un requiem pour Félix, du fait qu'il succombera quelques mois après l'avoir écrit d'une maladie. Voilà, on ne se voyait pas enregistrer autre chose après ça. Pour nous, la page est tournée après
De
l'opus
toute façon,
80.
déjà, ces six quatuors, ça suffit à nous combler. Donc, toujours pour le label Alpha Classique. Alors, à force de parler de jeunes quatuors, vous fêtez vos 10 ans, Quatuor Van Kuuk.
Ben oui, c'est toujours ce qu'on se dit. Parce qu'en plus, comme on a du métissage asiatique dans nos gènes, on a des collègues à qui on demande encore leur carte d'identité pour commander une bière. Du coup, on a envie de dire, bon, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Voilà, justement, c'est un petit peu l'occasion pour nous de tourner cette page du jeune quatuor et en tout cas d'aller vers des nouvelles aventures.
Et alors, c'est quoi cette idée du quatuor? C'est quand vous avez commencé la musique, pour vous, c'était un idéal de faire du quatuor?
Moi, j'ai toujours un quatuor dans mon évolution musicale. Je pense que depuis mes 13 ou 14 ans, ça m'a toujours accompagné, donc avec différents partenaires. Le quatuor Van Kuuk, c'est imposé de manière évidente parce qu'on a commencé par juste lire de la musique ensemble pour le plaisir. On était copains dans la vie. Et,
vous
c'est,
vous étiez au lycée aussi ensemble?
Ouais, surtout au conservatoire.
Vous étiez au lycée
ouais,
avec tout
ouais.
le monde.
Et bah, vous savez, c'est un petit milieu d'ailleurs. Si je peux faire une parenthèse, il y a un lycée parisien qui s'appelle le lycée Brassens qui est menacé de
qui est
fermeture.
Menacé de disparition. Je vois voilà. ça, je me dis, mais c'est on
ouais.
marche sur la tête.
Madame Valérie Pécresse a encore confirmé ce matin qu'elle comptait bien le fermer. Qui
oui,
fait
il y a
partie
le lycée
des...
Racine et le lycée Brassens,
voilà,
qui sont les deux lycées parisiens qui
Et en fait,
permettent
moi j'étais au lycée
musique.
Racine, mais j'ai beaucoup d'amis qui étaient au lycée Brassens. C'est des structures qui sont essentiels, je trouve, pour ces jeunes artistes qui se retrouvent pas créer un réseau, mais en tout cas dans une émulation et
oui,
une
et puis
culture.
Vous pouvez travailler votre instrument tout en suivant un cursus scolaire.
Donc je trouve ça dramatique. On entend beaucoup dans les conservatoires aujourd'hui que le niveau des élèves est plutôt déclinant. Je pense que ce genre de mesure va nous amener à encore plus faire décliner ce niveau. Donc voilà, si je peux m'adresser
non,
à
non, mais
cette
qui. Parenthèse est indispensable. C'est j'ai l'impression d'être un vieux déphasé quand je me scandalise de ce genre de choses. Et Sylvain Favorable, c'est heureux que vous le, enfin heureux malheureusement que vous le soyez amené à le souligner. Donc l'idée du quatuor.
Voilà, donc on s'est tous côtoyés dans ces structures-là, que ce soit le lycée ou les conservatoires. Et c'est la rencontre avec Günther Pichler du quatuor Elbenberg, le premier violon, qui, au bout de 6 mois de notre existence, nous a dit « Ah, vous avez quelque chose d'intéressant, je vais vous présenter du monde ». Il nous a emmené à Montréal, à l'Académie McGill, qui est une académie formidable pour le quatuor à cordes. Pro Quartet nous a énormément aidé, qui est une superbe structure pour le quatuor à cordes français. Je pense que c'est à eux qu'on doit d'avoir autant de quatuors français mémorables, en tout cas d'excellents niveaux. Voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et puis c'est vrai que c'est un métier passion, mais c'est un métier évident. Je ne vois pas d'autre structure, que ce soit l'orchestre ou peut-être le répertoire solo, mais moi je ne suis pas un solitaire. Et je ne vois pas d'autre structure qui permet d'aller aussi loin dans l'acquisition d'une, non pas d'une perfection, mais dans la recherche en tout cas d'une musique extrêmement honnête et pointue.
Oui, d'une grande intégrité. Et puis en même temps, le répertoire du quatuor qui est infini, enfin, c'est quand même.
C'est du
Vous
caviar tous les
avez,
jours.
oui, des diamants à votre disposition. Et donc vous, Anthony Kondo, vous êtes arrivé, bien sûr, on le disait, il y a 2 ans. Donc vous aviez eu un itinéraire aussi très chambriste avant
Moi, je me
d'arriver
suis
là.
mis à la musique de chambre très sérieusement durant mes études au conservatoire, où j'ai rencontré des collègues avec qui j'ai été
Et
dans un
puis vous avez été
quatuor.
l'élève de gens comme Marc Copé ou des gens qui faisaient
Marc Copé,
beaucoup de...
je l'ai rencontré en masterclass. J'étais
Vous
l'élève
n'avez
de
pas...
Anne Gastinel au CNSM à Lyon.
Aussi, mais qui est aussi une chambriste
Et
émérite.
très bonne chambriste. Et puis pareil, dans mon parcours de formation de musique de chambre, j'ai côtoyé aussi énormément de très grandes personnalités qui nous transmettent cet amour pour ce répertoire. Parce qu'il y a aussi beaucoup de traditions orales entre maîtres et élèves qui sont transmises. Moi, je me rappelle que ce soit par le quatuor Isaïe, les Artémis. À la fin, j'ai eu la chance aussi de travailler avec Alfred Brendel plusieurs fois. C'est des personnes, par leur histoire, par leur présence, même leur charisme, qui nous apprennent des choses sur la musique. Et le quatuor, une fois qu'on y goûte, c'est très
C'est
dur
une
de s'en
drogue.
passer.
Et alors, juste une parenthèse, Anthony, parce qu'en préparant cet entretien, j'ai vu, vous avez eu des masterclass avec Yano Starker aussi. Parce que quand
J'ai eu
même,
la
compte tenu
chance
de votre
de...
âge, qui, sans vouloir être grossier, est quand même assez jeune, je m'interrogeais sur.
Oui, j'ai eu la chance de travailler avec lui à Bâle. C'était sa dernière masterclass en Europe.
Ah oui, donc
Donc
une
durant
grande,
mes...
grande figure.
C'était ma deuxième année quand j'étais au conservatoire à Lyon. Et superbe rencontre.
Voilà, avec cette immense
Je me
figure de
souviens
la
qu'il
musique.
continuait à jouer d'une manière incroyable, de précision, de son, et avec beaucoup de gentillesse.
Alors, quand on parle de vos 10 ans, on ne peut s'empêcher d'évoquer un concert qui va avoir lieu le 4 décembre prochain dans cet écrin magnifique qui est le Théâtre des Bouffes du Nord, avec 5 invités.
Oui, alors
Je ne sais pas si c'est encore surprise, mais là, on a le droit de le dire
on a le droit de
peut-être.
le dire. En tout cas, on a essayé de convier des partenaires musicaux qui nous ont accompagnés à différents moments, des fois de ces 10 ans, mais en tout cas qui ont vraiment marqué de leur empreinte notre histoire. Et ça va être l'occasion d'une grande fête, un peu tous ensemble. Voilà, ça va être pas le concert le plus comment dire le plus j'ai pas le bon terme, mais
Conventionnel peut-être?
voilà, c'est en tout cas
Oui, mais
c'est
c'est une fête, vous
voilà,
célébrez et
ça va
vous
être
avez des
festif. On va pas
invités.
forcément défendre des œuvres entières, mais on va défendre un petit peu
Oui, un esprit d'amitié
voilà
et
des petits clins
chambriste.
d'œil un petit peu à tous ces à toute cette histoire, parce que c'est vrai que quand on se retourne vers le passé, on en a parcouru des aventures. Donc voilà, on est ravi que Antoine Manceau et La Belle Saison nous permettent de faire ça au Théâtre des Bouffes du Nord, qui est une salle que nous adorons sur Paris, qui est pour nous une
Oui,
des...
c'est vraiment un lieu sublime pour la musique de chambre.
Voilà, c'est une des plus belles acoustiques pour la musique de chambre, et c'est aussi un lieu chargé d'une histoire folle. Donc ça va être, je sais pas, peut-être notre quatrième apparition là-bas, mais on est vraiment ravi d'avoir leur confiance encore une fois.
La Belle Saison, ils organisent des concerts aussi en province. Il y aura une tournée ou c'est uniquement ce concert parisien?
Alors, ils nous ont accompagnés sur l'intégrale Mendelssohn pendant 2 ans. On a effectivement donné des concerts Mendelssohn dans toute la France et à Paris avec eux. Et oui, c'est une très belle organisation qui s'occupe de défendre le répertoire de la musique de chambre à travers nos contrées.
Et alors, par exemple, il y aura Ludmila Berlinskaya, Adrien Lamarca, des musiciens avec lesquels vous avez joué beaucoup,
Oui, voilà, avec qui des
flûtistes.
fois on a enregistré. On a voulu aussi, parce qu'on a connu du mouvement dans notre quatuor en 10 ans, ce qui est un petit peu courant finalement aujourd'hui, mais ce qui est aussi des choses intéressantes. Ça ramène des nouvelles idées au sein d'un ensemble, mais on a la chance de pas du tout être fâché avec nos anciens partenaires. Et du coup, on est ravis
Les
de les
convier.
convier pour un petit sextoir de
De
fin de
Tchaïkovski,
récital.
donc Souvenir de Florence de Tchaïkovski.
Oui, voilà, ça nous permet de faire un clin d'œil
Ça
rigolo.
aussi, c'est une œuvre euphorisante.
Ah bah c'est sûr, oui, mais la musique de Tchaïkovski, un peu comme celle de Mendelssohn, porte en elle une certaine joie.
Vous voulez jouer les quatuors de Tchaïkovski ou c'est pas encore à votre
On a
répertoire?
joué, on a donné. C'est une musique vraiment charismatique, mais dont personnellement je me lasse des fois un petit peu vite.
Et c'est très bien écrit pour le quatuor, ou alors c'est difficilement exécutable cette musique?
C'est un pianiste. C'est sûr qu'on sent, on sent une écriture à 4 voix qui n'est pas tout à fait toujours intuitive. Ça dépend. Il y a des choses qui sonnent très très bien, des passages plus délicats à défendre. Mais c'est voilà, il en écrit trois, voilà. Donc on en a défendu un. Peut-être qu'on y retournera parce qu'on a dans ce vaste répertoire, on a que le choix du roi. Mais
alors à propos de choix du roi, l'équateur de Beethoven, vous en êtes où au sein du quatuor?
On est à peu près à la moitié, je crois. Et en fait, on s'est toujours dit que l'équateur de Beethoven, et spécialement les derniers, ne doivent pas être travaillés trop tôt dans la vie d'un ensemble. Les concours internationaux poussent pourtant dans ce sens-là. On nous demande toujours un Beethoven. Les Japonais ne jurent que par l'équateur de Beethoven. Si on n'a pas enregistré un disque Beethoven, c'est qu'on n'est pas un ensemble sérieux. Voilà. Pour l'instant, nous, on l'a surtout pas mis sur disque parce que c'est une musique effectivement extrêmement profonde à différents niveaux de lecture, et je pense qu'il faut les avoir travaillés, défendus plusieurs fois avant de se permettre de se dire j'ai une vision globale entière qui va me permettre d'enregistrer ça. Donc pour l'instant, on se contente de les proposer en concert régulièrement, et on est
donc
à peu près
la moitié, voilà. C'est-à-dire vous faites dans l'ordre chronologique
pas
ou
du
non
tout? Non, je pense qu'on a deux opus 18, on a trois des derniers late, voilà, enfin on n'est vraiment pas du tout, en ce moment on est dans le sérioso, on va défendre les harpes l'année prochaine, la saison prochaine, donc on n'est pas du tout ni chronologique, ni ça part d'une envie surtout, c'est que chaque année on se dit qu'est-ce qu'on a envie. Et,
alors justement ouais. Vous parlez de vos envies, je me tourne vers vous Anthony, pour choisir au hasard un des deux, comment ça se passe la construction du répertoire? Là vous avez travaillé durant 2 ans beaucoup Mendelssohn, en vue de cette intégrale, de concerts, de disques. Et pour le reste, c'est quoi? Ce sont des discussions communes? Est-ce qu'on vous demande aussi les organisateurs de concerts, j'imagine?
C'est un savant mélange des deux. C'est vrai qu'on arrive tous les quatre en début de, on va dire, on prévoit nos saisons 2 ans à l'avance, on va dire. Oui. Donc là, par exemple, on a déjà planifié pour 2024-25 ce que nous, on souhaitait défendre comme nouvelles œuvres. Oui. Donc chacun d'entre nous, on se propose les uns aux autres d'écouter du répertoire peut-être inconnu. Et après, on fait une sélection et on essaye de l'agencer avec le programme qu'on a d'avant, les nouvelles œuvres pour pas non plus crouler que sur du nouveau répertoire. Et après, on s'adapte aussi aux demandes des différents organisateurs.
Donc là, vous allez reprendre les tournées, vous me disiez hors micro, notamment en Australie et en Colombie et aux États-Unis.
Et aux États-Unis aussi.
Et alors là, on vous demande un répertoire précis, très français, ou alors on vous laisse la bride sur le coup?
C'est variable. Je crois que dans mon souvenir, à Bogota, c'est un festival français, donc je crois qu'on joue exclusivement que de la musique française. Et après, pour l'année prochaine, donc pour nos 10 ans, on a aussi ce projet qu'on a nommé Impression parisienne, qui est un ensemble de transcriptions de mélodies et de pièces pour piano de la Belle Époque.
D'ailleurs, en concert, vous en avez donné une transcription là, de
tout
mémoire.
Tout à fait, oui.
Le bonheur de vous écouter en juillet, Festival de la Clé des Portes, vous aviez donné une transcription.
Il y a du Fauré. Il me semble qu'on avait fait une mélodie de Fauré dans mon souvenir.
Oui, c'est très, très beau.
Et donc ça, c'est un projet qu'on va beaucoup jouer l'année prochaine et qui est assez demandé, oui, aux États-Unis.
Des transcriptions que vous réalisez vous ou que vous confiez à d'autres?
Alors, on a eu l'ambition de les réaliser nous-mêmes. Et Emmanuel, notre altiste, a très, très bien réalisé l'arrangement de la petite suite de Debussy. Voilà. Après, les autres, on a eu plus d'écueils. Et donc, on a finalement préféré confier ça à des professionnels du style. On avait des compositeurs français qui nous accompagnent un petit peu aussi depuis 10 ans, à qui on a confié l'arrangement.
Oui, et puis à propos d'œuvres rares, je vous ai écouté jouer un très beau quatuor de Henriette Bosmans. Je ne connaissais pas du tout.
Bah, que nous, on a découvert grâce à une très belle association qui s'appelle Présence Féminine et qui s'est donné la mission depuis quelques années de défendre le répertoire des compositrices. Et on a du coup pu découvrir effectivement cette pièce d'Henriette Bosmans, donc qui n'est pas française, hein, qui est une compositrice hollandaise, mais qui a été très imprégnée par le style de Debussy. Et du coup, qui nous a permis d'avoir un quatuor qu'on pourrait quasiment qualifier de français, tant le langage est proche d'un Claude, et en tout cas d'une musique impressionniste pentatonique.
Vraiment une très très belle œuvre, une très très belle découverte. Vous allez le donner à nouveau
Oui, alors il y a un projet d'enregistrement de ce répertoire-là, avec à côté d'un quatuor de Edith Canachisi, qui est donc une compositrice d'aujourd'hui, de Madame Müller-Hermann, voilà, donc qui est une autre compositrice d'origine allemande.
Donc en attendant, vous avez aussi à votre répertoire que vous jouerez à Salzbourg le quintet de Bruckner avec Adrien Lamarca. Alors ça aussi, c'est un immense chef-d'œuvre qui est quand même peu joué, ce quintet de Bruckner.
C'est vrai que par sa dimension dans le temps, il est impressionnant, je ne sais plus exactement, mais on doit être facilement à 50 minutes, avec des mouvements à chaque fois qui prennent une dimension dingue. Donc c'est du temps, il faut de la patience. Et c'est une œuvre qui demande, comme toutes les œuvres de Bruckner, d'abord d'accepter de s'y perdre avant de pouvoir trouver son chemin. Donc j'espère qu'on aura, le temps de
trouver ce chemin-là.
Ce chemin.
C'est quoi ? C'est Salzbourg qui vous a demandé ce quintet ou c'est vous ? C'était une idée du quatuor
C'était nous, oui. C'est vrai que c'est toujours intéressant de mettre... je ne sais pas du tout ce que je veux dire.
Pardon.
Voilà. Non, mais c'est Salzbourg nous avait commandé en 2020 l'intégrale des quintettes de Mozart. Donc on avait choisi de défendre avec Adrien. Le Covid est passé par là, le projet est mort-né. Et aujourd'hui, ils ont dans la saison prochaine un autre ensemble qui va défendre les quintettes de Mozart. Donc nous, on a préféré se tourner vers cette nouvelle musique, nouvelle pour nous en tout cas, dans notre répertoire. C'était une très très bonne occasion de monter ce quintet de Bruckner avec Adrien.
Vous parlez d'Adrien Lamarca, donc vous avez une relation privilégiée avec cet altiste.
Oui, il fait vraiment partie des musiciens avec qui on a beaucoup aimé collaborer. On a enregistré ensemble et il sera évidemment présent le 4 décembre. Voilà, ça fait partie de nos fidèles.
Il y aura une flûtiste aussi.
Evanina Kosmus, ouais, qui est une flûtiste slovénienne, ouais, qui nous a permis en plus de découvrir ce beau pays. On est parti en tournée ensemble il y a 2 ans là-bas.
Et donc, il y aura Ludmila Berniskaya, Adrien Lamarca.
On a Sean Chibé, qui est un guitariste anglo-saxon. On aurait voulu avoir Vassilena, parce qu'on avait par l'intermédiaire de Benjamin Attahir, qui est un compositeur français.
Donc, vous avez joué.
Donc, on a une création qu'on jouera d'ailleurs le 4 décembre aussi, qui s'appelle Aldikra. Je lui avais commandé à l'époque un quintet pour vibraphone et percussion. Et quatuor à cordes, parce que j'étais persuadé que ça pouvait être une valeur ajoutée à nos sons de cordes que d'avoir un peu de percussion. Et donc, il nous avait écrit un quintet qu'on avait créé avec Vassilena. Malheureusement, elle sera en concert à Pau ce jour-là, donc on peut pas le proposer de nouveau ensemble, mais elle sera avec nous en pensée, et puis peut-être pour la fête qui va s'en suivre.
Donc, il y aura du beau monde le 4 décembre, et puis tous ces concerts à prévoir et ces tournées pour vous suivre. Faudra prendre un passeport pour suivre le Quatuor Van Cuyck l'année prochaine.
C'est vrai qu'on a vu une bonne partie de notre planète. Aujourd'hui, ça fait un peu réfléchir. On se dit qu'il y a peut-être des nouveaux moyens de défendre notre musique que les tournées qui malheureusement ont un bilan en carbone désastreux.
Oui,
mais en tout cas,
c'est un quatuor, hein, pas encore un orchestre symphonique.
Oui, voilà. Mais en tout cas, effectivement. C'est quand même très enrichissant pour nous de se confronter à différents publics et à différentes nationalités. Voilà, on n'accueille pas les mêmes choses de la même manière partout.
En attendant, donc il y a ce concert du 4 décembre prochain au Bouffe du Nord pour fêter vos 10 ans. Et ce premier volume de l'intégrale des quatuors de Félix Mendelssohn, qui est absolument merveilleux, qui vient de paraître pour le label Alpha Classique. Je rappelle, je recevais 2 des membres du quatuor Van Cuyck, Anthony Kondo au violoncelle et Sylvain Favrebulle, 2e violon. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mes invités.
Merci.
Merci beaucoup.